5h sur Europe 1, bon réveil.
Si et seulement si la situation continue à se dégrader, nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars.
L'ultimatum lancé par Jean Castex à 20 départements français, la situation sanitaire se dégrade. Ils n'ont plus qu'une semaine devant eux pour espérer éviter des mesures de confinement, mais la mairie de Paris veut frapper encore plus vite et encore plus fort. Que reste-t-il des propositions de la Convention citoyenne sur le climat? Dans le projet de loi du gouvernement, certains dénoncent un manque d'ambition. Claudia Bertram s'est penchée sur la question. Et puis c'est elle aujourd'hui l'idole des jeunes, parce qu'elle partage ouvertement le mal-être de beaucoup d'entre eux. La chanteuse Billie Eilish est l'objet d'un documentaire dévoilé aujourd'hui.
À suivre les sports, notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette avec nos agriculteurs. Nous serons au pavillon des fruits et légumes à Rungis tout à l'heure. Bienvenue à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc une forme de sursis qu'a offert hier le Premier ministre Jean Castex à 20 départements français fortement touchés par l'épidémie.
Toute l'Île-de-France, une grande partie des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi les départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle et enfin d'Eure-et-Loire. Nous plaçons donc ces départements en surveillance renforcée. J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus en vue d'envisager des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. Nous ferons un point la semaine prochaine et nous déciderons alors si et seulement si la situation continue à se dégrader. Nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars.
Le Premier ministre Jean Castex qui se donne donc encore quelques jours avant de trancher, le temps de concerter localement, mais juste après sa prise de parole, la ville de Paris s'est prononcée. Elle ne veut pas d'un confinement le week-end, comme à Nice ou à Dunkerque. Elle appelle de ses voeux un confinement strict tout de suite, Nicolas Feldman.
Un reconfinement strict et pas seulement le week-end. L'idée frappait vite et fort. 3 semaines de confinement pour au bout tout rouvrir, bar et restaurant compris. On ne peut pas s'imposer de vivre dans une semi-prison pendant des mois, estime le premier adjoint à la mairie de Paris. Pour Emmanuel Grégoire, il faut maintenant prendre des décisions courageuses. Alors l'option doit être présentée à l'ARS, puis évoquée lundi avec la préfecture de police. Du côté de la région Île-de-France, si l'objectif aujourd'hui reste d'éviter un reconfinement total, l'approche doit être régionalisée. Une approche par ville ou par département est illusoire, nous dit-on dans l'entourage de Valérie Pécresse. Un raisonnement appuyé par ce chiffre. Chaque jour, on compte au moins 3,2 millions de déplacements entre Paris et sa petite couronne.
Les explications de Nicolas Feldman.
La mairie de Paris qui aimerait donc voir rouvrir assez vite les bars, les restaurants et les lieux culturels, et ce sans attendre un éventuel passeport vaccinal.
Passeport qui n'est pas encore officiellement en projet, mais l'idée fait manifestement son chemin, même si le terme vaccinal n'est pas toujours employé. Hier, à l'issue de la première journée d'une visioconférence entre les 27 dirigeants de l'Union européenne, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'un passeport qu'il appelle sanitaire.
Pour organiser ces réouvertures, nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire. Si quelqu'un est venu à un tel événement dans un lieu public, qu'il puisse être enregistré avec un code, de la manière la plus simple et la plus numérique qui soit, qu'il puisse alerter de manière automatique, mais qu'on puisse retrouver beaucoup plus facilement ces cas contacts. Ce qu'on commence à faire depuis plusieurs mois avec tous anti-Covid, on le fera de manière beaucoup plus efficace. Sans doute, on pourra intégrer des éléments de tests négatifs récents. On pourra regarder aussi si vous avez été vacciné. Donc il faut préparer dès maintenant, techniquement, politiquement, juridiquement ce sujet. Quand je dis passe sanitaire, c'est que ça ne peut pas être soumis au vaccin. Parce que si on arrive à un moment dans le printemps à rouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n'aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d'entre nous. Ce serait invraisemblable.
Le président de la République, Emmanuel Macron, qui tiendra une réunion avec des membres du gouvernement dès la semaine prochaine pour évoquer la mise en place de ce passeport sanitaire. Et ce sommet européen a aussi été l'occasion d'un élan d'optimisme pour la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Elle estime que les pays membres pourront atteindre l'objectif d'une population adulte vaccinée à hauteur de 70% d'ici à la fin de l'été.
5h05 sur Europe 1. Le gouvernement a-t-il reculé par rapport aux propositions de la Convention citoyenne sur le climat?
La question se pose alors que les membres de cette cette convention se réunissent pour une ultime session à partir de ce matin. Ces 150 citoyens tirés au sort ont travaillé ensemble durant 9 mois. Ils ont remis 149 propositions au président de la République et ils vont maintenant observer à quel point ces mesures sont reprises, notamment dans le projet de loi climat et dans le plan de relance. Du côté des écologistes et des ONG, certains dénoncent déjà un manque d'ambition du gouvernement. Pour Europe 1, Claudia Bertram s'est déjà penchée sur la question.
Rénovation thermique des bâtiments, aviation, automobile, publicité, la copie du gouvernement est critiquée pour son manque d'ambition. L'une des principales mesures portées par la Convention, l'obligation de la rénovation énergétique des bâtiments d'ici 2040. Mais le gouvernement ne retient pas l'obligation généralisée et opte pour l'interdiction de la location des passoires thermiques d'ici 2028. Autre point noir, l'interdiction de la publicité pour les produits les plus polluants, comme les SUV, se limite finalement aux seules énergies fossiles. Ou encore l'interdiction de certains vols intérieurs conditionnés par le gouvernement à une alternative de moins de 2h30 en train, quand la convention proposait 4h. Et les exemples peuvent se multiplier. Grégoire Fratil, un des membres de la convention, veut voir le verre à moitié plein, mais ne cache pas sa déception.
On va dans le bon sens. Après, parce qu'on va suffisamment vite, suffisamment loin, c'est les questions d'ambition. Alors oui, nous, aux citoyens, on a envie de dire « Bon, là, c'est bien ce qui est fait, mais il faut faire beaucoup plus. » C'est notre rôle un peu de secouer le cocotier.
Côté exécutif, on défend. Avant de se demander si on est à 100% de ce qu'ont proposé les citoyens, on constate que ça a permis de faire bouger beaucoup de lignes, avance un conseiller.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
Dans 50 jours exactement, un train de nuit s'élancera de la gare d'Austerlitz à Paris en direction de Nice.
Et ce sera donc le grand retour de ces trains nocturnes décidés par le gouvernement alors que la ligne était désactivée depuis 3 ans. Les billets ont été mis en vente dès hier et ils ont trouvé preneur auprès de voyageurs impatients qui se sont confiés à Johanna Chabas.
Des billets disponibles à 25€ ou 30€ en couchette. À ce prix-là, on y va tout de suite, on ne réfléchit pas.
Romain s'est rué sur le site de réservation dès son ouverture. Éviter la voiture ou l'avion, un enjeu écologique pour ce Parisien. Mais surtout, passer la nuit dans le train, c'est selon lui le plus pratique.
Aujourd'hui, il n'y a que des trains de jour avec le TGV. Il n'y a pas moyen d'arriver le matin à Nice, si ce n'est partir la veille et prendre une chambre d'hôtel à Nice. C'est une nouvelle fenêtre qui nous permet de partir le soir. Et on se réveille au bord de la mer, sur la Côte d'Azur.
Mais cette nuit se passera dans les anciens trains de la ligne. Tout juste rafraîchie à hauteur de 100 millions d'euros. Pour ces 12 heures de trajet, pas de wifi, seulement quelques prises électriques et le masque obligatoire en permanence, même pour dormir. Nicolas Faurien du collectif Oui au train de nuit aurait aimé une proposition plus attractive pour le passager.
Ce qu'on demande à l'avenir, c'est d'investir vraiment dans une nouvelle génération de trains de nuit avec des cabines privatives avec douche et des couchettes vraiment confortables et que le gouvernement va vraiment se lancer avec des lignes transversales, pas que vers Paris et des lignes vers l'Europe.
C'est l'objectif annoncé du gouvernement. Le ministre délégué au transport parle d'une dizaine de lignes de train de nuit d'ici 2030.
Les explications de Johanna Chabas.
C'est un entretien téléphonique très sensible que Joe Biden a eu cette nuit pour la toute première fois.
Premier échange entre le président américain et le roi Salman d'Arabie Saoudite alors que doit bientôt être publié un rapport du renseignement américain sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Un rapport qui devrait mettre en cause le prince héritier d'Arabie Saoudite selon la Maison Blanche. Joe Biden a rappelé cette nuit au roi Salman l'importance que les États-Unis placent dans les droits humains universels et dans l'état de droit.
En Russie, Alexei Navalny est désormais incarcéré dans un lieu inconnu.
L'opposant à Vladimir Poutine a été transféré hier de sa prison de Moscou vers un lieu donc tenu secret selon son entourage. Il devrait désormais se trouver dans une colonie pénitentiaire où il purgera sa peine de 2 ans et demi d'incarcération pour une affaire de fraude. Son arrestation au mois de janvier avait provoqué d'importantes manifestations. Plus de 10 000 personnes avaient alors été interpellées.
C'est un documentaire événement qui sort aujourd'hui sur Apple TV. Un documentaire qui va parler à toute une génération.
Au cœur de ce film, une jeune chanteuse de 19 ans, Billie Eilish, une star planétaire déjà récompensée par 5 Grammy Awards. On l'entend notamment dans la BO du prochain James Bond. Mais ce qui fait son succès auprès de beaucoup de jeunes de son âge, c'est son discours, l'expression d'un mal-être qu'ils peuvent ressentir eux aussi. Angèle Châtelier.
Take me to the roof.
Cette chanson de Billie Eilish s'appelle « Listen before I go », écoute avant que je ne parte. Et c'est en réalité une lettre de suicide. Dans son documentaire consacré, on voit sa mère être préoccupée que sa fille pense à un tel acte.
Tu n'es pas inquiète de ça ?
C'est grâce à cette chanson que je le fais pas.
Billie Eilish est devenue pour les plus jeunes une icône pop par sa musique et gothique par ses paroles. Elle évoque ses terreurs nocturnes, son anxiété ou son ennui dans « Bored ». Axel, 18 ans, écoute Billie Eilish quand elle ne va pas bien, car elle met des mots sur ses angoisses.
Je me retrouve dans ce qu'elle dit, ça permet de s'évader un peu quand on n'est pas très bien dans notre vie. Parler de quand on va mal, etc., c'est aussi beaucoup moins tabou. Elle représente bien notre génération.
Et elle permet aux adolescents de se sentir moins seuls, ce qu'explique Vincent Cornalba, psychologue et auteur de l'ouvrage « L'adolescent et sa musique ».
L'adolescence, c'est fait vraiment de beaucoup d'inquiétudes, d'inconnus. On va s'identifier beaucoup à ses paroles, on peut même presque avoir l'impression qu'elles ont été écrites pour nous. Ça soulage considérablement.
Et le nom du documentaire sur la vie de Billie Eilish est équivoque. Son titre, Le Monde, est un peu flou.
Billie Eilish, raconté par Angèle Châtelier.
C'était le journal signé Rémi Botsaron sur Europe 1. Il est 5h10.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une de votre journal des sports, cette mauvaise nouvelle en foot pour Lille, la Ligue Europa s'est terminée.
Oui, le LOSC a perdu ses deux 16e de finale contre l'Ajax Amsterdam sur le même score, 2-1. Une rencontre plus aboutie hier soir qu'au match aller, mais il a manqué de réalisme pour espérer se qualifier. Et puis les changements dans le 11 de départ ont peut-être joué également. La question d'ailleurs a été posée à l'entraîneur Christophe Galtier.
Il n'y a pas eu de turnover et je n'accepte pas qu'on dise ça parce que s'il y a turnover, on pourrait laisser penser aux gens que j'en avais rien à foutre du match. Et c'est faux. Et rien de la compétition, et c'est faux. L'équipe qui a démarré, sur le 11 de départ, il y en a 9 qui étaient titulaires à San Siro quand mon équipe a été a fait un très gros match à San Siro.
Christophe Galtier avec Julien Froment, Arsenal, le Milan AC et Tottenham sont qualifiés pour les 8e, tout comme les Andalous de Grenade qui ont réussi à éliminer l'équipe de Naples.
Du foot encore ce soir avec la 27e journée de Ligue 1.
Et Rennes, toujours en quête de l'Europe, reçoit l'OGC Nice. Les Bretons, 5 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, ont chuté à la 8e place du classement de la Ligue 1. Période un peu délicate pour l'entraîneur Julien Stéphan, peut-être la plus dure depuis qu'il est à la tête de l'équipe, car Rennes aujourd'hui est toujours attendu au tournant.
Les adversaires, quand ils jouent le Stade Rennais, je pense qu'ils le jouent différemment d'il y a 2 ans. Vous avez plus d'attentes, c'est normal, il y a plus de pression aussi. Donc voilà, tout ça c'est aussi à appréhender. Donc c'est différent, mais ça fait partie de la vie d'un entraîneur et de la vie d'un club.
Et Rennes-Nice, c'est donc à 21h. Demain, le Paris Saint-Germain sera à Dijon, Lille recevra Strasbourg et Lyon ira à Marseille. Ce sera dimanche pour le choc de cette 27e journée.
À chaque jour, son rebondissement finalement, pas de France-Écosse en rugby dimanche.
Oui, ça a été un peu notre feuilleton de la semaine. Le match a finalement été reporté après la détection hier d'un nouveau cas positif au Covid, le 16e dans les rangs français. Reste à savoir quand le match pourra se dérouler. On évoque le mois de juillet.
Les représentants du sport en salle sont très inquiets. Ils ont lancé un cri d'alarme.
Ouais, 13 fédérations comme celle de basket, de handball, de judo ont interpellé l'État. Le secteur demande davantage de soutien face à la crise économique, à la perte de licenciés, faute de pouvoir pratiquer ou bien d'être diffusé à la télé. Écoutez, Jean-Pierre Suita, c'est le président de la Fédération de basket.
La situation elle est quand même compliquée. On ne sait pas si on doit reprendre, si on ne doit pas reprendre. On sent qu'il y a un vrai désespoir de nos forces vives des territoires qui sont les bénévoles. Aujourd'hui, nous, on veut absolument alerter le gouvernement que ça ne reprendra pas parce que du jour au lendemain, on autorisera le sport à reprendre. S'il faut le préparer, et le préparer, ce sera effectivement l'accompagnement financier, c'est une chose, mais c'est aussi trouver des solutions pour que les clubs, même en situation, je dirais, financière saine, puissent reprendre parce qu'ils vont se retrouver en carence de, je dirais, des dirigeants.
Et Jean-Pierre Suita, président de la Fédération de basket, interrogé par Cyril de la Morinerie. Un rendez-vous est d'ores et déjà prévu à l'Élysée lundi.
Et on va en reparler tout à l'heure à 6h40 avec le président de la Fédération française de handball, Philippe Bana, qui sera mon invité. Merci Lénaïque Meunier. Et il nous reste à découvrir le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 812 Fils d'Eaufor. Toujours à l'arrivée cet hiver à Vincennes, sans pour autant avoir réussi à gagner, il trouve ici des conditions de course particulièrement favorables, mais aussi une opposition largement à sa portée pour enfin s'imposer. Le départ donné à l'aide de l'autostart ne pourra que l'avantager. Dès lors, à l'issue d'une mise en jambe correcte, il ne devrait avoir aucune difficulté à remporter sa première victoire de ce meeting d'hiver de Vincennes. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1, dans la 8e course, le numéro 12, Fils d'Eaufort.
C'est noté Thierry Léger, on vous retrouve dans 20 minutes pour le Quintet. À tout à l'heure.
Europe 1.
Il est presque 5h15 sur Europe 1, on va ouvrir les journaux avec toute l'équipe du 5-7. Omblin, qu'est-ce que vous avez lu ce matin ?
Winston Churchill travaillait la nuit, dormait 2 heures dans la journée. Napoléon tenait grâce à ses fameuses siestes. Margaret Thatcher avait pour réputation de ne dormir que 4 heures. Le sommeil et la fatigue de ceux qui nous gouvernent d'une manière générale Les nuits des politiques sont courtes.
Ouais, de ceux qui nous gouvernent ou de ceux qui font les matinales à la radio. Ça existe.
Même combat.
Même combat. On s'en sort. À tout de suite pour le pressing avec Martin Lange et Omblin Roche.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h15 sur Europe 1, la mairie de Paris ne veut pas se contenter d'un hypothétique confinement uniquement le week-end. Après l'annonce d'une concertation avec les élus de 20 départements, la ville se dit favorable à 3 semaines de confinement strict. Maintenir des restrictions fermes, muscler les efforts pour accélérer l'acheminement des vaccins, voilà le cap fixé hier par les dirigeants de l'Union européenne. Alors que le président américain Joe Biden estime, lui, que son pays est en avance dans sa campagne de vaccination. Et puis après sa mise en examen pour viol, l'acteur Gérard Depardieu se défend dans les colonnes du journal italien La Repubblica. L'enquête est close, je suis innocent, dit-il, et je n'ai rien à craindre. On sera en Italie tout à l'heure à 6h50 dans la revue de presse internationale.
Europe 1.
Pour l'heure, on va commencer par lire les journaux français. C'est le pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. On commence par les unes de la presse. 20 départements sous surveillance et des restrictions locales en vue à partir du 6 mars. C'est à la une notamment de Ouest-France ou encore de l'Alsace. Le courrier Picard alerte sur la situation dans la Somme. Le Républicain Lorrain sur la Moselle. Et la Meurthe-et-Moselle et Varmatin sur cette semaine cruciale à venir. Et vous trouverez dans Aujourd'hui en France une carte très complète des villes où l'épidémie flambe avec tous les chiffres. Il faut tenir jusqu'au printemps. Voilà le titre de Sud-Ouest. Les Échos listent les défis à venir pour ce mois de mars. Le Télégramme, rassurant ce matin sur le vaccin. Il porte ses fruits dans les EHPAD, écrit le journal. Et alors que les généralistes ont commencé à vacciner, Nice Matin lance une sorte d'appel. Donnez-lui sa chance en parlant du vaccin AstraZeneca, parfois critiqué pour ses quelques effets secondaires. Et puis vos journaux titrent aussi sur le scénario catastrophe au sein de l'équipe de France de rugby. On en parlait dans le journal des sports. La douche écossaise, c'est à la une de la Dépêche du Midi. Annulation du match France-Écosse après un nouveau cas de Covid. Le 15 de France hors jeu, titre Midi Libre. Voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Omblin, on va commencer avec vous. Et donc, le sommeil de nos dirigeants.
Exactement, c'est un numéro spécial sommeil dans le magazine Elle, la femme ou l'homme politique peut elle aussi, lui aussi, être fatigué. Il est un humain comme les autres, hein, c'est mieux en le disant. Mais ils ne sont pas tous égaux face aux besoins de repos. Tous, en revanche, peuvent ressentir une baisse de performance s'ils n'ont pas assez dormi. Une spécialiste des troubles du sommeil dit « il est impossible de tenir avec des nuits de moins de 5 heures ». Je ne regarde. Les nuits de François Hollande duraient justement entre 5 et 6 heures. Il se couchait vers minuit, se levait à l'aube, parcourait la presse depuis qu'il a quitté l'Élysée. Eh ben c'est pareil, il y a très longtemps, dit-il, que je n'ai pas fait de grasse matinée. Lorsqu'il a atteint le sommet du pouvoir, son successeur Emmanuel Macron, qui dort peu, n'hésitait pas à empiéter sur ses nuits pour finir de travailler. Il est souvent arrivé que ses collaborateurs reçoivent des SMS à 3 heures du matin. Il fait désormais plus attention. Ce qui ne change pas, c'est que le président n'est pas du matin. N'essayez pas de prendre rendez-vous avec lui avant 9 heures.
Il se couche tard, mais il se lève un peu plus tard.
Un petit peu plus tard. Pour tous ceux qui nous gouvernent, les nuits sont donc courtes. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, n'accepte plus les invitations le soir. Alors lui, et du matin, il se fait livrer les dossiers dans la nuit pour les lire dès son réveil à 5 heures. La ministre des Armées, Florence Parly, se dit qu'elle aura le temps de dormir après, quand elle ne sera plus à la tête d'un ministère régalien. Le sommeil est la variable d'ajustement de son agenda. Il faut le prévoir. Quant à Olivier Véran, d'abord père puis médecin avant d'être ministre de la Santé, il a toujours eu l'habitude des nuits hachées. Il carbure au café et au Coca-Zéro. Il s'octroie une sieste hebdomadaire de 20 minutes, pratique la méditation et surtout Olivier Véran continue
c'est
de faire...
C'est hebdomadaire, 20 minutes.
Hebdomadaire, oui, j'ai bien précisé, hebdomadaire. C'est peu quand même. Il pratique la boxe une fois par semaine, oui. Le sport pour pallier la privation de sommeil.
On avait parlé de son biceps.
Oui, on y reviendra bientôt. La grosse fatigue des politiques, c'est dans elle. C'est rigolo.
Voilà, nous aussi on dormira après.
Après.
Un jour. C'est-à-dire dans elle. Martin, avec vous, on en vient à de nouvelles mesures pour inciter les gens à se faire vacciner. Ça se passe chez nos voisins.
Oui, Sébastien Omblin, qu'est-ce que vous pensez d'une amende pour ceux qui refusent le vaccin contre le Covid ?
Le débat est ouvert.
Un peu inimaginable chez nous quand même, hein, alors qu'on s'écharpe déjà autour
déjà
de...
déjà pouvoir aller se faire vacciner.
C'est ça. Pour ça.
Commencez par ça.
Alors qu'on s'écharpe déjà autour de l'idée d'un passeport vaccinal pour pouvoir retourner au restaurant ou au théâtre, et bien pourtant c'est une mesure qui est entrée en vigueur en Galice, la 5e région la plus peuplée d'Espagne, au nord-ouest du pays. C'est Ouest France qui nous l'apprend. Là-bas, si vous êtes éligible au vaccin mais que vous refusez, vous risquez une amende allant de 1000 à 60 000 euros.
Ah hein, oui, c'est beaucoup.
C'est quand même pas rien, voilà. Une mesure
c'est pas 135 euros.
Non, 60 000. Une mesure locale décidée par le gouvernement provincial qui va à l'encontre de la politique du gouvernement central. Officiellement, l'Espagne mise sur le volontariat, comme la France ou les autres pays européens.
Comment réagissent les Espagnols ?
Alors à droite, on salue la décision du Parti Populaire qui dirige la Galice. À gauche, on critique fermement et on espère que le texte sera retoqué par le tribunal suprême espagnol. Ce que déplorent les opposants de la mesure, c'est son anachronisme. Hein, car elle a été arrêtée en novembre dernier quand seulement 40% des Espagnols voulaient se faire vacciner. Un peu comme en France où on était très sceptiques. Hein. Ouais. Sauf que comme en France, le vaccin convainc de plus en plus et les volontaires sont de plus en plus nombreux. On estime aujourd'hui que 80% des Espagnols sont favorables à ce vaccin.
Ah, ils sont plus favorables que nous quand même, 80%.
Oui, un peu plus. À quoi bon donc sanctionner les quelques récalcitrants ? Pour l'instant, la Galice est la seule région du monde à imposer une amende aux anti-vaccins. On verra si elle fait des émules.
Oui, pas sûr. Mais bon.
Écoutez.
Mais le passeport vaccinal est une incitation en soi. Quand on parlait hier de ce qui se passe en Israël, quand on en a besoin pour aller au théâtre, bah forcément, ou pour voyager.
Oui, ça pénalise quand même certaines personnes.
C'est quand même une forte incitation. Alors on va terminer, justement, toujours en Espagne, avec des humoristes français qui remontent sur scène, face à un public. Donc évidemment, ce n'est pas en France. C'est à Barcelone. On a vu aussi des comédiens jouer à Dubaï. Mais le nouvel Eldorado serait donc la Catalogne. C'est ce que nous raconte Le Parisien aujourd'hui en France, qui a suivi de jeunes humoristes donc qui vont tenter leur chance sur les scènes de Barcelone.
Ben, je suis très content de jouer à Barcelone, putain, je pensais que c'était fermé. Mais ouais, en France, tout est fermé. Moi, je pensais que vous étiez confinés. Mais en fait, non, vous n'êtes pas confinés.
Ah non, ils ne sont pas confinés. Et donc, il est sur scène. Ce jeune comédien s'appelle Tristan Lucas.
Et c'est du français. Hein. Il fait pas un sketch en espagnol, je veux dire.
Non, parce qu'il s'adresse à la communauté française, qui est très nombreuse. À Barcelone, il y a 25 000 expatriés français à Barcelone. Donc, il y a quoi remplir des petites salles. En l'occurrence, cette salle fait 160 places avec le Covid. Oui. On divise par deux, donc il y a 80 places. Il aurait dû lancer son spectacle en octobre à Paris. Bah, pas de bol, il n'a fait que deux dates. Ouais. Du coup, il est parti s'installer à Barcelone, où il essaye de jouer le plus possible. Il y a cette communauté française. Il n'est pas le seul. D'autres lui ont emboîté le pas. Des jeunes. Il y a aussi des stars comme Gad Elmaleh qui va jouer 4 spectacles à guichet fermé à Barcelone dans 2 semaines. À Barcelone, les restos sont ouverts le midi. Les bars sont fermés, mais il y a cette activité spectacle pour le soir. Et les théâtres accueillent du public. Le couvre-feu est à 22h et vous avez une heure de plus si vous allez au théâtre.
D'accord.
Et les Français, effectivement, cartonnent. Pour eux, c'est une bouffée d'oxygène. Retrouver le public dans une salle, on l'imagine. Retrouver aussi des revenus. Il y a même de quoi faire des petites tournées. On peut aller aussi à Madrid, à Malaga. Il pourrait y avoir un festival, un mini-festival d'artistes français qui est organisé par des patrons de salles parisiens. Voilà, on se bidonne à Barcelone, c'est-à-dire dans Le Parisien aujourd'hui en France. C'est le titre de cet article.
Bien trouvé.
Merci à vous.
Merci.
C'est le rideau sur le pressing du jour, 5h23.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et pour les doigts dans l'assiette, nous sommes à Rungis ce matin au pavillon des fruits et légumes. Bonjour Boris Richeux.
Bonjour Sébastien.
Comment allez-vous ce matin ?
Excessivement bien, Sébastien.
Bon, c'est vendredi, il y a du monde autour de vous ?
Il y a du monde, il a fait beau, donc nous en plus quand il fait beau, les gens ont envie de manger les produits de saison, ont envie de manger quelque chose de frais. Et c'est parfait parce que moi j'avais envie, si vous étiez d'accord Sébastien, qu'on parle de tomates aujourd'hui.
Ah oui, alors là c'est vraiment nouveau, ça veut dire qu'on change de saison si les tomates commencent à arriver.
Bah, quand il a fait 20 degrés mercredi, tous les parcs parisiens et d'Île-de-France et même de France étaient blindés. Je pense que tout le monde avait envie de manger des tomates. En tout cas, nous, à Rungis, on l'a bien senti.
Ben alors, elles viennent d'où, vos tomates ?
Alors, en ce moment, elles viennent de France et 100% de France. Voilà, mais la tomate, c'est quoi une tomate ? Solanum lipperspicicum, de son petit nom. Elle arrive, elle naît, on la retrouve il y a 52 millions d'années sur tout le bassin du nord-ouest de l'Amérique du Sud. Alors, on parle de quel pays ? Équateur, Chili, Colombie, Venezuela. C'est là le berceau d'origine de la tomate. Elle arrive en Europe avec les Espagnols, 1492, Christophe Colomb. On la retrouve en 1523, on est sûr qu'on la trouve en Espagne, sur le sud de l'Espagne. Elle met du temps à remonter jusqu'à chez nous, parce qu'elle arrive chez nous finalement qu'au XVIIIe siècle. Et au début, c'est une plante d'ornement. François de Serres, qui est le grand botaniste français, dit même « elle est belle, elle est magnifique pour décorer mon bureau, mais surtout ne mangez pas son fruit ». D'ailleurs, à l'époque, on l'appelle pas tomate en France. On l'appelle fruit d'amour ou pomme d'or.
Ah, fruit d'amour, c'est joli.
En 1835, qui rentre dans le dictionnaire, dans le Larousse, et qu'on peut enfin trouver son nom tomate.
Bon, ben bah voilà, il y a de quoi faire plein de recettes et il y a plein de variétés. Il y a de très nombreuses variétés de tomates. Mais j'ai une petite question quand même, Boris Richer, parce qu'on est quand même en février. Cette tomate, elle pousse sous serre, aujourd'hui?
Alors, elle va pousser sous serre, qu'elle soit en hors-sol, donc pousser à travers une laine de verre et un goutte-à-goutte, ou même en pleine terre. Aujourd'hui, dans le sud de la France, vous avez des températures qui vous permettent, si vous couvrez votre terre, de pouvoir planter de la tomate pleine terre et de l'avoir maintenant, je dirais, d'ici quelques jours. Fin février, ah oui. Début mars.
Bon, voilà. Changement climatique. On va bientôt avoir des tomates au mois de décembre, si on continue comme ça, avec des 20 degrés au mois de février. Bah écoutez, on va commencer à se faire des petites salades de tomates. Ça fait un peu rêver. Ça veut dire qu'on commence à changer de saison et qu'on va retrouver bientôt les fruits et légumes de printemps et d'été. Et qu'on va sortir de cette période de carottes, patates, choux, quand même. C'est quand même pas si mal. Boris Richer, merci beaucoup. À bientôt dans Les Doigts dans l'Assiette.
Merci Sébastien, à très vite, au revoir.
Et je vais quand même préciser que lundi matin, on sera en direct dans une ferme auprès de l'agricultrice Isabelle de Radiguès, que vous connaissez bien dans cette chronique des Doigts dans l'Assiette. Elle va nous accueillir pour une émission spéciale lundi de 5h à 7h. Le salon de l'agriculture aurait dû commencer, eh bien il n'a pas lieu. C'est Europe 1 qui s'installe dans le salon des agriculteurs. Voilà, rendez-vous lundi. Il est 5h27 sur Europe 1. Bon réveil.
Charme, trouver enfin le repos, trouver les armes pour faire la paix quand il le faut, échapper au drame, s'enfuir pour autant, loin s'en faut, avaler ses larmes en bord d'eau, prendre le bon bateau.
Jean-Louis Aubert sur Europe 1, Où me tourner, nouvel extrait de son album Refuge. Jean-Louis Aubert qui prépare sa tournée à partir du mois d'octobre 2021, bien sûr si les conditions sanitaires le permettent. On va retrouver Laurent Cabrol pour la météo avec cette nouvelle perturbation qui arrive, Laurent.
Bah oui, cette perturbation, nous on tourne en rond un petit peu au centre de la France. Alors les pluies les plus marquées seront présentes cet après-midi sur le centre, sur le Morvan, sur la Lorraine-Alsace, dans le courant de l'après-midi, la Lorraine et l'Alsace. Mais bon, ce ne sont pas des pluies très 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 marquées. En revanche, nous avons, et on peut dire maintenant, des éclaircies qui se développent sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, et puis des éclaircies très présentes sur le bassin méditerranéen, où le vent d'OTAN et le vent marin ont cessé. Sur la région Rhône-Alpes, il fera beau. Bref, c'est une journée, on va dire teintée de nuages surtout. Les températures maximales entre 10 et 20 degrés, il ne fera que 10 degrés à Saint-Brieuc, il en fera fera à peine 12 du côté de Bourges, de Quimper, de Reims et de Nancy. À Paris, 13 degrés, pas plus, vous voyez que ça baisse, hein, 14 degrés à Montauban et Limoges, 16 à Bastia et Périgueux, nous atteindrons à Lyon 17 degrés et 20 à Manosque, à Nîmes et Avignon.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bon réveil, merci de nous rejoindre sur Europe 1 ce matin. Tout de suite, un nouveau journal. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
5h30.
Nous proposons, nous à Paris, de faire un vrai confinement de 3 semaines pour repartir sur des bonnes bases, pour pouvoir après s'organiser.
Assez de demi-mesures, dit l'équipe d'Anne Hidalgo. La mairie de Paris propose 3 semaines de confinement pour espérer rouvrir ensuite les bars et restaurants. Les commerçants, eux, sont vent debout. Le gouvernement choisit de temporiser 20 départements en vigilance renforcée et un nouveau point d'étape prévu pour la semaine prochaine. Pendant ce temps, les restaurateurs gagnent une nouvelle manche en justice dans leur bataille face aux assurances sur l'indemnisation des pertes liées à la pandémie. Enfin, on reviendra à la fin de ce journal. 50 ans en arrière, le 26 février 71, nous quittait le légendaire Fernandel.
Après le journal, les 150 Françaises et Français tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le climat se réunissent pour la dernière fois ce week-end avant que la loi n'arrive au Parlement. Quel bilan ? Je pose la question à l'une des participantes. Mélanie Cosnier est mon invitée dans 10 minutes et puis on retrouvera La France Bouge avec toujours de belles initiatives dans nos régions. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Jean Castex se donne donc encore quelques jours avant de trancher. 20 départements sont placés en surveillance renforcée et un point sera fait la semaine prochaine pour décider d'éventuelles nouvelles mesures. Illustration de la nouvelle stratégie du gouvernement. Faire localement, du cas par cas. Seul moyen, dit le Premier ministre, d'éviter un reconfinement national. Sauf que ça n'a pas convaincu Paris, où la mairie socialiste ne veut pas de ce qu'elle qualifie de demi-mesure. Elle demande un confinement strict de 3 semaines pour la capitale, avec comme objectif à l'issue de tout rouvrir, bars et restaurants compris. Anne Souris est l'adjointe à la santé d'Anne Hidalgo. Elle veut frapper fort et vite.
L'idée est simple, hein, c'est de se dire que depuis la deuxième vague, on n'a pas du tout réussi, le pari qui était fait, d'arriver à faire en sorte qu'on puisse retourner à un état à peu près normal. Donc à partir de ce moment-là, nous proposons, nous à Paris, de faire un vrai confinement de 3 semaines. Pendant ce temps-là, on réorganisera la suite des événements pour repartir sur des bonnes bases. On pourra vraiment préparer, faire avec les gens, faire des écoles qui fonctionnent, faire aussi, avoir aussi une vie culturelle fonctionnelle. On préfère y aller pour pouvoir après s'organiser.
Le débat est lancé. Anne Souris, adjointe à la santé de la maire de Paris, jointe pour Europe 1 par Nicolas Feldman. Et cette idée fait déjà bondir Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France.
C'est une ineptie. Il y a déjà le couvre-feu, de nombreuses mesures qui ont été mises en place par l'État, parce que les commerçants individuels, avec la distanciation qui a été fixée à 8 mètres sur 50, 80, 100 mètres carrés, ce ne sont pas des éléments à risque, les marchés ouverts non plus. Bon, qu'il y ait certaines mesures complémentaires, je peux l'admettre, mais le confinement total à Paris, on ne peut pas tolérer, ça va mettre au plus mal, encore plus mal, le commerce à Paris. Cette décision n'est pas encore validée. Nous sommes tous les unions commerciales, les représentants professionnels comme je le représente, effarés de cette décision brutale de la part de la maire de Paris.
Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France avec Caroline Baudry, il parle d'une décision, la mairie de Paris va en fait présenter son plan à la préfecture de police ce week-end. Et c'est bien la préfecture qui donnera ou non le feu vert.
Le Premier ministre, on retiendra cela quand même, a voulu donner une perspective hier soir, l'espoir d'un retour à la vie normale à la fin du printemps.
Grâce à la campagne de vaccination, elle sera ouverte aux plus de 65 ans d'ici début avril, a dit Jean Castex. Et à la mi-mai, tous les Français de plus de 50 ans se seront vus proposer une première injection. Pendant ce temps, les dirigeants européens ont affiché leur divergence hier soir sur la question très sensible, hein, du passeport vaccinal, sujet abordé lors d'un sommet des 27 par visioconférence. Les pays du sud de l'UE poussent notamment en ce sens pour pouvoir relancer le tourisme. Angela Merkel s'y dit aussi favorable. Pas Emmanuel Macron qui le refuse tant que tout le monde, notamment les jeunes, n'aura pas accès aux doses.
Et toujours au volet européen, cette autre audition hier, une première pour les patrons des laboratoires qui fabriquent les vaccins.
Questionnés en public devant les élus du Parlement européen, Isabelle Horry, ils ont essayé de se défendre face aux accusations sur les retards de livraison sur le continent.
Oui, l'heure n'était pas à l'arrogance pour ces grands patrons. Ils ont joué profil bas pour tenter de convaincre de leur bonne foi. Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a ainsi expliqué que la production de vaccins s'effectue à flux tendu, sans stock, à la merci du moindre imprévu, comme quand une pompe s'est cassée sur l'un de ses sites.
Les équipes y ont passé plusieurs jours, des nuits aussi. Mais les jours perdus à réparer la pompe et à faire homologuer la nouvelle pompe, eh bien ces jours-là sont perdus pour toujours. Comme nous produisons à flux tendu, on ne peut jamais rattraper.
Le plus attaqué, c'est le patron d'AstraZeneca. Au premier trimestre, il a réduit les livraisons de 60% dans l'Union européenne. Les eurodéputés ne comprennent pas pourquoi les Britanniques, eux, sont livrés normalement. Pascal Soriot plaide non coupable.
Le gouvernement britannique a financé le développement du vaccin de l'Université d'Oxford et sa production. Donc il avait déjà conclu des contrats avec des sites de production et quand nous avons signé avec Oxford, on nous a notifié ses engagements préexistants.
Les élus sont déçus, ils espéraient des garanties sur les livraisons des mois à venir. Mais ils n'en ont pas obtenu.
Isabelle Auré, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Il est 5h36, tandis qu'au volet des assurances, AXA a été condamné en France à indemniser un restaurateur de Marseille.
Ouais, c'est une première sur le fond. La cour d'appel d'Aix-en-Provence estime que la clause épidémie retenue dans son contrat obligeait l'assureur à compenser les pertes dues à la fermeture de l'établissement à cause du Covid. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour.
Avec cette décision, c'est toute la défense des assureurs ces derniers mois qui s'effondre.
Oui, la cour d'appel a rejeté d'un bloc les deux arguments avancés depuis des mois par les compagnies d'assurance. D'abord, celui portant sur la clause en elle-même. AXA, principal assureur mis en cause dans ce dossier, a toujours argué que la mention épidémie dans certains contrats ne fait référence qu'aux infections de type bactérienne comme la salmonellose. Bref, les épidémies ne touchant qu'un seul établissement. Défense irrecevable pour la cour d'appel. Elle a jugé que la clause n'avait qu'à être plus spécifique et que le flou doit être interprété en faveur des restaurateurs. Deuxième argument battu en brèche, plus général celui-ci, les grandes compagnies ont tenté de plaider leur cause en affirmant qu'elles ne pouvaient pas indemniser tout le monde, ce qui irait à l'encontre du fonctionnement même du système d'assurance. Là aussi, une position rejetée par la cour d'appel. Selon elle, la présence de la clause épidémie dans un contrat engage l'assureur avec l'établissement qui l'a souscrit, indépendamment de tous les autres. Résultat, ce sont à présent plusieurs milliers de restaurateurs qui pourraient s'engouffrer dans la faille et réclamer une indemnisation.
Clément Le Saffre est contacté par Europe 1. L'assureur AXA n'a pas souhaité répondre.
Aux États-Unis, il avait promis 100 millions de vaccinations en 100 jours. Après 5 semaines de mandat, Joe Biden a participé à une petite cérémonie hier.
Pour marquer, dit-il, la moitié du chemin, 50 millions de doses ont été injectées depuis sa prestation de serment. Et alors que le pays a franchi la barre des 500 000 morts en début de semaine, Joe Biden s'est félicité de cette campagne vaccinale. Il demande aux Américains de ne pas relâcher leurs efforts.
Au début, les critiques ont dit que cet objectif était trop ambitieux, que personne ne pouvait le tenir. Puis ils ont dit que cet objectif était trop faible. Je suis ici pour vous dire, nous sommes à mi-chemin. 50 millions de doses injectées en 37 jours depuis que je suis président. Nous avons plusieurs semaines d'avance, nous avançons dans la bonne direction malgré le désordre que nous a laissé l'administration précédente. Mais je dois être honnête avec vous, ce n'est pas le moment de se relâcher. La pire chose que nous puissions faire aujourd'hui, c'est de baisser la garde.
Le président américain Joe Biden, propos recueillis par notre correspondant Alexis Guilleux. Alors que le stockage du vaccin Pfizer pourrait être facilité, l'agence américaine des médicaments autorise sa conservation dans des congélateurs classiques entre moins 15 et moins 25 degrés, plus forcément à moins 80 degrés donc, ce qui faciliterait grandement sa distribution. Un mot de sport avec Lille éliminée en 16e de finale de la Ligue Europa de football, défaite 2-1 hier soir à Amsterdam, le même score qu'au match aller.
Et puis on va terminer avec un petit clin d'œil. C'était il y a 50 ans, la disparition de l'un des artistes français les plus populaires du XXe siècle. Fernandel nous quittait le 26 février 1971.
Acteur, humoriste, chanteur, tête d'affiche dès les années 50, avec notamment Ali Baba et les 40 voleurs, La Vache et le Prisonnier, bien sûr, et puis Don Camillo. On va réentendre la voix de Fernandel ici avec André Bourvil, qui lui remettait le prix de l'humour cinématographique. C'était en 1963.
Mon cher Fernandel, en vertu des pouvoirs qui me sont... En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais Grand Prix de l'humour, prix Courteline 1963. Voilà, permettez que je vous mette cette petite couronne.
Couronne de laurier.
Le roi. Le roi de quoi? Ah, ça, c'est une devinette.
Je vais pas me le dire, hein. Alors, mon cher Beauville, merci pour cette distinction qui m'honore et me flatte devant toutes ces personnes. Mais excusez-moi, je suis un peu intimidé, j'ai la larme à l'œil. Donnez-moi la plaquette.
Ah oui, c'est vrai, c'est bien à moi, ça. C'est... Ah oui, une petite plaquette.
Fernandel, vous voilà couronné. C'est le premier prix de l'humour que vous obtenez?
Oui, je crois, depuis 30 ans.
Depuis 30 ans, et au bout de 30 ans, seulement le prix de l'humour.
Oui, au bout de 30 ans seulement, oui, oui. Mais oui, tout arrive. Hein.
Tout arrive.
Mais il fallait quand même se dépêcher cette année.
Archive Europe 1, 1963, la voix inimitable de Fernandel qui nous quittait donc il y a 50 ans tout juste.
Fernandel et Bourvil sur Europe 1. Quelle archive. Il y a des pépites quand même dans les, dans les placards d'Europe 1. C'est bien de les ressortir de temps en temps. Théo Manval pour le journal, il est 6h20. Et on retrouve Thierry Léger pour les courses et les pronostics du Quintet.
C'est sur l'hippodrome de Vincennes que se disputera ce quintet. Parmi les 16 trotteurs âgés de 5 ans, j'ai choisi les numéros 14, Gaylord Jeff et 11, Gay Matin, respectivement 2e et 3e d'un quintet similaire, le 1er février, disputé sur le même parcours que celui qu'ils emprunteront cet après-midi. On leur opposera Ginko Tellois, le numéro 10, facile lauréat de bout en bout le 13 février à Vincennes sur la petite piste, mais aussi son compagnon d'entraînement, Général de Loiron, le numéro 5, bon second ce jour-là, confirmant ainsi ses performances précédentes obtenues depuis le début de ce meeting. Enfin, les numéros 6, Gigolo du Noyer, chuchoté, 13, génial au fort, qui dépend de l'entraînement de Christian Bigeon, dont tous les pensionnaires sont en net regain de forme actuellement. 16, Gossip Boy, particulièrement bien engagé. Et 8, Grande Soirée, dont j'ai entendu le plus grand bien. Eh bien, ces 4-là sont tout à fait capables de terminer à l'arrivée de ce quintet à une cote spéculative. Mon pronostic, 14, 11, 10, 5, 6, 13, 16 et 8.
C'est noté Thierry Léger et on retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et j'accueille tout de suite la première invitée de ce 5-7. Bonjour Mélanie Cosnier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fait partie des 150 Français tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le climat et vous co-présidez le collectif des 150. Cette convention qui va clôturer ses travaux ce week-end après des mois de réunions par un débat qui va porter sur le projet de loi que le gouvernement vient tout juste de présenter pour mettre en application un certain nombre de vos propositions. Quel bilan vous tirez, vous, de cette expérience ?
Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est une expérience incroyable que je souhaite à tout le monde. On est tous montés en compétence sur divers sujets, que ce soit le climat, la participation citoyenne, mais aussi tout ce qui est projet de loi, amendement, délibération, les votes au Parlement, tout ça.
On apprend tout ça,
je pense, au collège, mais moi, je ne m'en rappelais plus du tout. Et du coup, ça nous a fait une belle mise à jour et on a appris plein de choses.
Sur cette reprise justement des propositions par le gouvernement, à la fois dans cette loi et dans le reste des dispositions que le gouvernement pourra prendre, est-ce que vous êtes satisfaite ?
Alors, est-ce qu'on est satisfait ? Alors aujourd'hui, là, ce matin, on va commencer donc à 9h les webinaires pour travailler justement sur ces reprises. Nous, on a eu les échos de l'avis du CESE, le Conseil pour le climat, des associations qui ont donné leur point de vue. Et d'après eux, le compte n'y est pas. Alors effectivement, d'après ces premiers regards, l'objectif de 40% de réduction des gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale d'ici 2030 par rapport à 1990 n'est pas atteint. Nous, c'était notre objectif. On a fait des propositions pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France. Et au regard des reprises du gouvernement de nos propositions, le compte n'y est pas. Donc après, je pense qu'il y a une moitié de la convention qui considère que le verre est à moitié plein, une autre moitié qui considère que le verre est à moitié vide. Après, ça dépend de quel côté on regarde.
C'est difficile de s'y retrouver et c'est presque difficile finalement de faire les comptes sur le nombre de vos propositions qui finalement vont voir le jour. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui va être repris ? Quelles sont les principales avancées qui découleront de cette convention ?
Alors les mesures principales, il y a une grosse mesure qu'on porte depuis longtemps qui est la rénovation globale des bâtiments. Nous on demandait à ce qu'il y ait un reste à charge quasiment nul pour les personnes les plus défavorisées. Là c'est un peu ce qui blesse avec la reprise du gouvernement. Mais nous, ce qu'on obtient, c'est une rénovation globale des bâtiments, parce que c'est une grosse part des émissions de gaz à effet de serre. Sur la voiture, il va y avoir les zones à faible émission dans les villes de plus de 150 000 habitants. Donc des centres-villes seront interdits à certaines voitures avec des critères supérieurs à un seuil. Mmh. Sur l'alimentation, se nourrir... moi je trouve qu'il n'y a pas eu grand chose d'impactant qui a été retenu.
Sur la consommation, on avait demandé une limitation, pas une interdiction, une limitation de la publicité pour les produits qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Et la seule chose qui a été retenue dans ce projet de loi, c'est l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. Mais bon, ça, c'est tellement évident que... voilà.
Beaucoup d'associations, et vous le disiez tout à l'heure, pointent des renoncements de la part du gouvernement. Quel est le plus grand renoncement? Quelle serait votre plus grande déception?
Ben, moi, j'étais dans le groupe Se Déplacer, donc mes plus gros. Je trouve que les mesures qui auraient eu beaucoup d'impact, c'est le bonus-malus CO2. Actuellement, le malus CO2, il est très très faible. Il a très peu d'impact. Alors, je sais que il faut pouvoir quand même acheter des voitures qui tournent, des voitures thermiques, voilà. Mais le but ultime de la convention, c'est pas d'équiper tous les Français de voitures électriques. Nous, on a proposé des alternatives à la voiture, à la grosse voiture thermique, parce que il existe des alternatives, mais depuis des années, on nous vend la voiture, la grosse voiture comme le but ultime d'une vie. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, à cause de l'urgence climatique, de tout ce réchauffement climatique, de toute façon, on n'arrivera pas à limiter à 2 degrés, moi c'est ma conviction aujourd'hui, mais qu'il faut absolument qu'on agisse aujourd'hui pour laisser une planète vivable à nos enfants.
Il y a aussi dans ce projet de loi climat l'idée de favoriser une alimentation plus végétale en proposant dans la restauration collective un choix systématique végétarien au quotidien. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez le tollé qu'a provoqué la décision du maire de Lyon de proposer des menus végétariens dans les cantines scolaires? Qu'il y a encore beaucoup de travail pour expliquer, pour sensibiliser?
Je sais pas, je me dis peut-être que le gouvernement n'est pas au courant, peut-être qu'on manque de communication. La base de tout pour nous, ça a été la communication, l'information et la sensibilisation. Moi, je pense que c'est la base. Il faut que chaque citoyen français soit informé factuellement, pas par des avis, c'est un fait. Le fait est que aujourd'hui, le réchauffement climatique a un impact et qu'il faut agir. Aujourd'hui, il y a plus de droite, plus de gauche. Il faut vraiment agir pour réduire, pour limiter l'augmentation de la température moyenne sur Terre. Et voilà. Donc moi, je pense que si on ne sait pas forcément, on peut pas se rendre compte. Nous, on a fait des propositions à la Convention pour sensibiliser toute la population française, comme nous, on l'a été à la Convention citoyenne. C'est important.
Vous terminez des mois de travail sur ces questions entre citoyens, avec ces 150 qui avaient été tirés au sort. Quel va être votre travail au-delà de cette Convention citoyenne?
Alors la suite, là, en session 8, on rend notre rapport. Donc si on reçoit des sollicitations par les députés et les sénateurs, on est prêt à répondre. Après, si le référendum pour la modification de l'article 1 de la Constitution passe, je pense qu'on sera là aussi pour expliquer, pour informer. Et ensuite, on est beaucoup sollicité pour partager sur l'exercice de participation citoyenne, qui est quand même un exercice inédit en France.
Peser aussi sur les débats qui vont se dérouler au Parlement?
Ben, on aimerait bien, mais... On aimerait peser sur les débats, oui, effectivement, pour que ces articles soient amendés dans le sens des propositions de la Convention. Mais apparemment, c'est un gros, gros travail. Il va y avoir presque 2000 amendements qui vont être déposés.
Merci beaucoup. Merci Mélanie Cosnier d'avoir été ce matin avec nous sur Europe 1 pour nous expliquer votre travail au sein de la Convention citoyenne pour le climat qui va donc clôturer ses travaux ce week-end. Merci à vous. Bonne journée.
Merci, bonne journée, au revoir. Europe 1.
5h48 sur Europe 1, c'est l'heure de mettre en lumière tous ceux qui ont des idées à travers la France, de belles initiatives positives. Où est-ce qu'on va aujourd'hui, Lénaïque
Monnier ? On va dans l'Orne et on va voir comment vos cheveux peuvent avoir une, voire deux deuxième vie quand vous allez les couper.
Oui,
faut en avoir assez.
Ouais. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
20 départements sous surveillance, l'Île-de-France, le Nord, également dans le Sud-Est. Si la situation continue de se dégrader, de possibles reconfinements locaux pourront être mis en place la semaine prochaine à partir du 6 mars à Paris. L'équipe de la maire de Paris, Anne Hidalgo, demande un confinement très strict et pas seulement le week-end pour 3 semaines. Elle va faire la demande à la préfecture. 7 nouveaux jeunes présentés à un juge d'instruction cette nuit après les rixes du début de la semaine dans l'Essonne. Cette fois, c'est le dossier de la mort d'un ado de 14 ans à Boussy-Saint-Antoine. L'auteur présumé du coup de couteau mortel a été placé en détention provisoire. Et puis en football, Lille éliminée de la Ligue Europa après une nouvelle défaite de 2-1 face à l'Ajax d'Amsterdam en 16e de finale. Retour hier soir.
Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et c'est l'heure de La France bouge avec vous, Lénaïque Monnier, des initiatives positives à travers la France. Chaque matin, nous sommes donc dans l'Orne.
Oui, chez Catherine qui tient un salon de coiffure au Theil-sur-Huisne et qui s'est mise il y a quelques temps à recycler les cheveux de ses clients. L'histoire nous est racontée par le journal de l'Orne parce qu'on ne l'imagine pas forcément, mais les cheveux remplissent 50% des poubelles des salons de coiffure. 3 à 4 000 tonnes de cheveux sont ramassées chaque année dans les salons. Catherine les collecte et les envoie à l'association Coiffeur Juste.
Alors, quelle deuxième vie ont ces cheveux ?
L'océan, parce que le cheveu est lipophile. Ça veut dire qu'il absorbe le gras. Là, vous voyez en quoi il peut être utile, capter les hydrocarbures ou encore les résidus de crème solaire. On les met dans de gros boudins et on filtre. La technique est de plus en plus répandue, mais elle existe depuis un moment. En 1978, pendant la terrible marée noire de l'Amoco-Cadiz au large du Finistère, on avait déjà, entre autres, utilisé ce procédé.
Pour les marées noires, on aspire les hydrocarbures. Il y a encore une autre utilisation possible pour ces cheveux.
Oui, un isolant pour les maisons ou bien pour renforcer les constructions en béton. Ça n'existe pas encore en France, à ma connaissance, mais c'est peut-être à réfléchir. En Grande-Bretagne, on s'y est mis. Paula Sunshine a repris cette tactique ancestrale où les poils de bête étaient utilisés dans les murs. Et comme elle n'a pas trouvé le poil du bétail britannique satisfaisant, elle fait depuis quelques années le tour des coiffeurs. Alors La France bouge lance cette idée peut-être intéressante, alors qu'on a vu beaucoup d'études sur les dégâts de l'amiante comme isolant ou encore de la laine de verre.
Des cheveux pour isoler les murs de la maison et pour lutter contre les marées noires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, c'était l'an dernier lors de la marée noire à l'île Maurice. Il y avait des grandes collectes de cheveux.
Absolument.
Sur l'île justement pour absorber les hydrocarbures. Voilà, Coiffeur Juste, c'est ça cette association.
Exactement,
qui
Coiffeur
recueille
Juste, ouais, dans l'Orne.
Les cheveux, si vous êtes un salon de coiffure, voilà, vous pouvez faire don de vos cheveux coupés plutôt que de les mettre à la poubelle. C'est dit, merci à vous, Lénaïque Monnier. On passe aux réseaux sociaux avec vous, Martin Lange. Qu'est-ce qui anime les réseaux ?
Eh bien, ce matin, je vais vous parler de la plateforme Twitch. Alors, c'est une plateforme où chacun peut créer sa propre chaîne et discuter en live avec ses spectateurs. Eh bien, figurez-vous que les médias traditionnels s'y intéressent de très près. En l'espace de quelques jours, TF1, Arte et France Télévisions ont annoncé qu'ils allaient diffuser leur propre émission sur Twitch. Alors, ce n'est pas une première. France Télé a déjà essayé fin janvier et ça a cartonné.
Bienvenue sur la chaîne Twitch de France TV, bienvenue dans le premier stream. C'est pas une émission de télévision, c'est bien une émission, un stream sur Twitch pour profiter de vous.
Samuel Etienne et le docteur Damien Masclé ont réuni 16 000 internautes en moyenne pour parler de vaccins contre le Covid, des échanges de qualité, des débats de fond pendant plus de deux heures. L'initiative a été saluée sur les réseaux sociaux. Samuel Etienne, véritable précurseur de Twitch, il a lancé sa propre chaîne dès décembre, une sorte de revue de presse quotidienne. Là aussi, succès immédiat.
Il fait ça dans son salon, chez lui, après ses matinales, il lit les journaux et ça marche très très bien. Il y a beaucoup de gens qui le regardent. Alors qu'est-ce qui séduit les médias sur cette plateforme qui permet de créer tout simplement des petites chaînes de télévision? Pourquoi ils s'intéressent tous à Twitch?
Alors déjà, il y a le format, c'est révolutionnaire, ces échanges où n'importe qui peut intervenir. Il y a aussi le public, la plateforme ne fournit pas de chiffres pour la France, mais Twitch, c'est plus de 30 millions de visiteurs par jour dans le monde, surtout des jeunes, une cible à laquelle les médias traditionnels ont de plus en plus de mal à parler. Les politiques, eux, n'ont pas attendu pour investir la plateforme. Mercredi soir, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a lancé sa propre émission Twitch, hashtag sans filtre, avec des influenceurs mais sans journalistes. Ce qu'a déploré la youtubeuse Enjoy Phoenix pendant l'émission.
Je ne suis pas journaliste, d'ailleurs je trouverais ça super que la prochaine fois il y ait un journaliste qui soit là pour rétorquer parce que ce n'est pas mon métier. Moi je viens juste pour poser les questions que ma communauté aimerait mettre en avant.
À un an d'une élection présidentielle qui se jouera aussi sur les réseaux sociaux, c'est vrai que les médias ont tout à gagner à se positionner sur Twitch et à venir parfois contredire la communication de nos politiques.
C'est intéressant parce que ces youtubeurs, ces jeunes qui ont beaucoup plus l'habitude que nous d'utiliser ces réseaux-là, réclament la présence de journalistes et les médias s'y intéressent. Il y a peut-être des partenariats à tisser entre le monde du web et les médias
très
traditionnels. On va suivre tout ça. Merci à vous. Martin Lange, 5h54. D'un mot, l'histoire du jour de Christophe Ondelat aujourd'hui, c'est l'enquête sur le meurtre en juillet 1991 de Caroline Nolibé, 18 ans, dans le Lot-et-Garonne. Cette enquête a duré 10 ans et c'est un cas d'école, car elle cumule tous les défauts d'une mauvaise enquête. Ondelat raconte à 14h sur Europe 1, mais vous retrouvez cette histoire dès maintenant en podcast sur europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète avec vous et des idées qui marchent pour améliorer notre environnement chaque matin. Hier, on parlait de ces bactéries capables de transformer les gaz à effet de serre en éthanol. Aujourd'hui, vous nous dites que ces bactéries pourraient aussi rendre nos bâtiments vivants.
Absolument, des fissures qui se comblent toutes seules avec des bactéries. Certaines spores bactériennes, une fois injectées dans les fissures des bâtiments, forment des cristaux de calcite venant combler les brèches. D'autres spores, associées cette fois à une couche de latex, permettent au mur d'échanger de l'air avec l'extérieur lorsque le taux d'humidité augmente à l'intérieur, ce qui veut dire moins de climatisation pendant les pics de chaleur. Imaginez-vous habiter un appartement dans un bâtiment biologiquement conçu. À ne pas confondre avec les habitats passifs ou les maisons à énergie positive. Là, on parle de bâtiments englobant tous les aspects de la durabilité.
Fanny, j'imagine que n'importe quel bâtiment ne peut pas comme ça se décréter vivant. Il y a des critères stricts ?
Extrêmement strict. C'est l'Institut international du futur vivant qui a lancé en 2006 le certificat du bâtiment vivant afin d'encourager la construction de bâtiments qui rendent à la nature ce qu'ils y prennent. Il y a en tout 7 critères. Depuis le lieu choisi jusqu'à l'utilisation de l'eau et de l'énergie en circuit fermé, l'utilisation des matériaux et des déchets. L'édifice doit aussi être strictement autonome en eau et en énergie, sans combustion ni énergie nucléaire. Seuls les matériaux naturels et produits dans un contexte local sont tolérés pour sa construction. Tous les déchets doivent être recyclés, récupérés, compostés ou biodégradés. 400 projets sont inscrits à la certification bâtiments vivants à travers le monde. Des dizaines d'entre eux remplissent quelques critères, mais seulement 25 pour l'instant ont déjà reçu la certification totale.
Ouais, voilà, ces bâtiments vivants, on comprend que c'est assez strict. Ces bâtiments, ils sont aussi conçus pour le bien-être des gens qui y vivent.
C'est ça, tout est pensé autour du bien-être, santé physique et mentale des occupants. Chaque espace doit disposer de lumière et d'air naturel, tout habitant doit avoir accès à la nature et les espaces individuels en appartement doivent être équitables. Le lieu de construction du bâtiment doit intégrer une zone d'agriculture urbaine et ce n'est pas fini, préserver aussi l'équivalent de la superficie construite en superficie naturelle. En clair, ces nouveaux immeubles repensent intégralement le rapport entre nos habitats et la nature. Aujourd'hui, si consommateurs, ils pourraient devenir demain de grands restituteurs.
Voilà, les bâtiments vivants qui rendent à la nature ce qu'ils y prennent. Merci à vous Fanny Agostini, à lundi.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe. Un bon réveil en ce vendredi matin. Vendredi 26 février, l'actualité, ce sont ces 20 départements désormais sous surveillance renforcée dans le cadre de l'épidémie. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui demande un confinement strict dans la capitale pour 3 semaines. On va y revenir. Et on va s'arrêter ce matin sur la situation du monde du sport amateur. Activité en intérieur interdite depuis des mois maintenant et des clubs en souffrance. C'est un appel au secours que lance une quinzaine de patrons de fédérations sportives, dont celle du basket.
On sent qu'il y a un vrai désespoir de nos forces vives des territoires qui sont les bénévoles. Aujourd'hui, nous, on veut absolument alerter le gouvernement que ça ne reprendra pas parce que du jour au lendemain, on autorisera le sport à reprendre, s'il faut le préparer.
Certaines disciplines ont perdu jusqu'à la moitié de leurs licenciés et ce sont maintenant les bénévoles qui partent eux aussi. La parole ce matin à celui qui dirige la Fédération française de handball, Philippe Bana, est mon invité tout à l'heure à 6h40. Et puis on n'oublie pas notre respiration musicale du matin.
Out across the endless sea, I will
avec la douce voix de Norah Jones dans la partition d'Omblin tout à l'heure, 6h25. Laurent Cabrol, il y a toujours une perturbation qui s'accroche. Hein.
Oui, alors elle est toute petite, ça s'appelle une goutte froide. Alors je m'amuserai, si nos amis le veulent bien, à expliquer ce que c'est qu'une goutte froide, parce que c'est un phénomène météorologique assez sympa, assez marrant, mais qui apporte un peu de pluie. Alors la goutte froide se situe en ce moment sur la Lorraine, la Bourgogne, le Berry, l'Alsace et la région parisienne. Dans ces régions, il pleut ou il pleuvra. Sur Paris, il pleuvra que ce matin, mais sur les autres régions, une bonne partie de la journée. Et donc ces pluies bien, vont ensuite se promener demain et après-demain sur une des autres parties de la France. Des nuages et des ondées sur la vallée de la Loire, de la brume dans le sud-ouest et du soleil sur le littoral de la Manche aujourd'hui, Poitou-Charente, Champagne, Ardennes, région Rhône-Alpes, littoral méditerranéen, Auvergne, toutes ces régions seront sous le soleil. Les températures baissent un peu parce que la goutte froide par définition elle amène un peu de froid, donc entre 10 et 13 degrés au nord, 13 à Paris, et entre 15 et 20 degrés au sud, 15 à Bordeaux et de 20 degrés à Angoulême et Avignon, même 18 à Marseille et 17 à Lyon pour être complet. Demain samedi, ce sera donc toujours cette même fameuse goutte froide qui se promènera, mais cette fois sur le Massif central, la Haute-Vallée du Rhône, la Drôme, l'Ardèche, ce sont dans ces régions qu'il pleuvra. Et sur le bassin méditerranéen, comme sur le littoral de la Manche, nous aurons de très belles éclaircies et même on peut dire qu'il fera beau. Dimanche, amélioration qui ira crescendo.
Bon, très bien. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.